L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Nous sommes le 20 juin 1990. Joanne arpente un wagon de deuxième classe du Manchester-Londres. Elle est essoufflée d'avoir couru pour attraper son train et cela fait 10 minutes qu'elle cherche une place assise tant le train est bondé. Joanne repère enfin un fauteuil libre près de la fenêtre, à côté d'un homme pour le moins corpulent. Elle jette sans délicatesse sa sacoche sur le porte-bagages au-dessus des sièges et interroge l'homme du regard en espérant que la place est bien libre. Ce dernier acquiesce d'un bref hochement de tête, mais comme il ne fait pas mine de se lever, Joanne doit escalader ses jambes massives pour prendre place sur son siège. Mon Dieu, quelle journée! Joanne est rouge, collante, épuisée, mais elle se félicite d'avoir obtenu ce qu'elle était partie chercher. Un appartement à Manchester. Et maintenant, elle sera plus près de sa famille, surtout de sa maman, qui est gravement malade. Elle a déjà trouvé un nouveau job sur place. Secrétaire pour la chambre de commerce de Manchester. Oh, rien de très excitant, mais il faut bien vivre. Joanne regarde sa montre. Il est 17h45. C'est l'heure H de mon histoire. À 25 ans, Joanne a déjà mis ses rêves de côté. Elle voulait devenir écrivain. Une passion qui l'a saisie dès sa plus jeune enfance. Elle avait 6 ans quand elle a écrit son premier livre. Il s'appelait Rabbit. Un exploit pour une enfant de cet âge, disaient ses professeurs. Depuis, dès qu'elle a un moment, Joanne écrit. Hélas, l'écriture, ça ne paye pas, murmure-t-elle en empruntant le ton et les mimiques de son père. Alors, comme tout le monde, Joanne travaille pour gagner sa vie. Mais on ne peut pas dire que la vie active lui réussisse. En fait, on ne peut pas dire que la vie tout court lui réussisse. La jeune diplômée de l'université Dexter, qui s'est vu refuser Oxford parce que son école n'était pas assez prestigieuse, cumule les emplois, ou plutôt les licenciements. Elle vient de se faire remercier par Amnesty International. Et elle ne tient plus le compte des emplois qu'elle a occupés sans succès auparavant. Joanne regarde le paysage qui défile à travers la grande vitre contre laquelle elle a trouvé appui. Et elle soupire. Sa vie n'a rien d'excitant. Sa carrière, rien de prometteur. Elle passe tout son temps libre à s'occuper de sa maman, à qui l'on a diagnostiqué une sclérose en plaques il y a 10 ans. La maladie progresse à vitesse grand V, sans aucune perspective de rémission puisqu'il n'existe pas de traitement. Les épaules de Joanne s'affaissent d'un coup, comme si elle portait tout le poids du monde sur son dos. C'est ça la vie ? Se demande-t-elle avec lassitude. Soudain, avec toute l'ironie dont la vie peut être capable, le train s'arrête. « Oh, c'est pas vrai, quoi encore ?» s'énerve Joanne en se redressant sur son siège. Une voix nasillarde annonce avec détachement
« Mesdames et messieurs, veuillez ne pas essayer de sortir du train, nous sommes arrêtés en pleine voie. »
« Ah ben tiens, on n'avait pas remarqué, » ironise Joanne, qui se sent lasse et rêve d'être enfin chez elle. Joanne a oublié de prendre un livre alors. Elle s'enfonce un peu plus dans son fauteuil et ferme les yeux. Les minutes passent, mais elle ne parvient pas à trouver le sommeil. Nous sommes dans le train bondé qui relie Manchester à Londres. Ne parvenant pas à trouver le sommeil, la jeune Joanne se tourne vers la vitre avec lassitude. Elle admire le paysage anglais, vallonné, venteux, verdoyant. Soudain, elle remarque au loin un immense château médiéval perché sur une montagne rocheuse. Il surplombe un gigantesque lac gris comme l'ardoise. Joanne est étonnée. Depuis le temps qu'elle emprunte cette ligne régulière, elle n'avait jamais remarqué ce château. Tout à coup, un drôle d'oiseau fend le ciel juste devant elle. Mais non, c'est impossible. Une chouette effraie en pleine journée. L'oiseau blanc change de cap. Il s'approche du train en battant de ses ailes majestueuses et caressantes. Joanne est fascinée. Elle se tourne alors vers son voisin pour lui faire remarquer la présence de la mystérieuse chouette, mais mais il n'y a plus personne autour d'elle. Joanne réalise alors que son wagon est métamorphosé. Il est plus petit, agencé différemment. Elle n'est plus assise dans un fauteuil en tissu gris, mais sur une jolie banquette recouverte de velours vert olive. Et sa banquette fait désormais face à une autre banquette de la même couleur. Les parois de sa voiture ont été recouvertes d'un papier peint fleuri, vert et rose. Au-dessus d'elle, les compartiments à bagages sont devenus d'élégants rails dorés sur lesquels reposent de vieilles malles en cuir. Le hurlement d'une locomotive à vapeur fait tressaillir Joanne, qui n'en croit toujours pas ses yeux. Pourtant, tout cela semble bien réel. Soudain, les portes de sa voiture s'ouvrent en coulissant. Une charmante petite dame aux cheveux gris apparaît, tirant un chariot rempli de bonbons colorés et de pâtisseries. Elle a des joues toutes roses et une robe rose assortie à son petit chapeau. De sa voix fluette et dans un débit ininterrompu, la petite dame annonce « Quelques choco-grenouilles au chocolat, mademoiselle, ou des baguettes magiques à la réglisse. Sinon, il me reste des dragées surprises de Bertie Crochu. J'ai entendu dire qu'elles étaient parfumées à la fraise, au poivre et au café ce matin. Mais faites attention, hier, un passager est tombé sur le parfum crotte de nez. » Joanne est médusée. Elle ouvre la bouche, prête à bégayer une réponse pour le moins incertaine, quand son attention est happée par un mouvement derrière le chariot. C'est un petit garçon qui essaye de se frayer un passage dans le couloir du train. Il a des cheveux noirs en bataille, des yeux vert émeraude en forme d'amande. Il porte des lunettes rondes, à monture noire et sur son front, une fine cicatrice en forme d'éclair. Il est vêtu d'une longue robe de velours noir. C'est lui. Oui, c'est lui, pense Joanne. C'est lui le héros qu'elle attendait depuis toujours. Il est enfin là, devant elle, qui la regarde timidement. Il semble un peu perdu dans ce train, tout aussi étonné que Joanne de se trouver là. Lentement, il sort de sa robe un long bout de bois et le pointe vers Joanne en formulant une espèce d'incantation. Un éclair aveugle la jeune femme. Quand elle rouvre les yeux, elle est à nouveau dans le train Manchester-Londres qui a repris sa course. Le garçon a disparu. Et devant Joanne se tient un gros monsieur à moustache, une casquette bordeaux sur la tête et une sacoche grise attachée à l'épaule. « Contrôle des billets, madame !» Joanne cligne des yeux, pas tout à fait réveillée et surtout complètement bouleversée par le rêve qu'elle vient de faire. Elle fouille distraitement ses poches et tend un ticket tout chiffonné au contrôleur qui marmonne dans sa barbe, l'air mécontent. Mais Joanne s'en moque. Il faut absolument qu'elle prenne des notes sur ce rêve étrange et tellement inspirant. Elle s'apprête à déranger son voisin quand elle réalise qu'elle n'a ni crayon ni papier dans sa sacoche au-dessus d'elle. Alors, elle ferme à nouveau les yeux et passe en revue chaque instant, chaque détail de son rêve. Le château, perché sur la montagne, le lac, l'épaisse forêt noire, la chouette, le train à vapeur, les friandises et surtout, surtout, l'enfant. Deux heures plus tard, le train entre en gare de King's Cross, entre les plateformes 9 et 10. Joanne a déjà presque toute son histoire en tête. Elle va écrire les aventures d'un jeune garçon orphelin, martyrisé par sa famille d'accueil, qui apprend qu'il est un sorcier. Quand elle arrive chez elle, elle se jette sur un bloc de feuilles et sur son stylo et se met à écrire, frénétiquement. Son imagination fait le reste. Sous sa plume surgit le prénom d'un garçon, celui qu'elle a toujours préféré, Harry. Puis un nom, Potter, emprunté aux petits voisins avec lesquels elle jouait aux sorciers quand elle était petite, Yann et Vicky Potter. Harry Potter, oui, Harry Potter, ça sonne bien. Voyons, Harry, il te faut des amis, tu en auras besoin pour traverser toutes les épreuves qui t'attendent, pense Joanne. Le nom de Ron Weasley apparaît sur une nouvelle page blanche. Il ressemble étrangement au meilleur ami de Joanne, Sean Harris, qu'elle a rencontré quand elle était au collège. Et ce n'est pas une coïncidence si la voiture de la famille Weasley est une Ford Anglia turquoise, exactement comme celle de son meilleur ami Sean. Le personnage qui sera le plus facile à décrire pour Joan est Hermione Granger, la meilleure amie de Harry et de Ron. Hermione, comme dans la pièce de Shakespeare, le conte d'hiver, qu'elle a étudié il y a bien longtemps à l'école. Joan aime bien ce prénom un peu incongru. Hermione, c'est moi, pense Joan. Un rat de bibliothèque, absorbé par les livres. J'étais tellement première de classe, se dit-elle en souriant. Enfin surgissent l'école des sorciers, ce magnifique château médiéval qu'elle appellera Poudlard, et ses occupants, le bienveillant directeur à la barbe blanche et aux lunettes en demi-lune, Albus Dumbledore, le bon géant Hagrid, gardien de Poudlard, le terrifiant professeur Rogue, inspiré de son ancien professeur de chimie, Monsieur Nettleship. Enfin, la plume de Joan dessine les lettres de celui dont on ne doit pas prononcer le nom. Voldemort, le sorcier le plus redouté du monde de la magie, le seigneur des ténèbres, l'ennemi juré de Harry Potter. Quand Joan repose sa plume, il est 7h du matin. Elle a écrit toute la nuit. À la fois épuisée et euphorique, elle range précieusement toutes ses notes dans une boîte à chaussures. Ces notes seront les premières d'une longue série qui donnera vie, un jour, aux plus célèbres sorciers du monde. Elles se vendront même pour des centaines de milliers de dollars sous le marteau de Sotheby's et d'autres multinationales de vente aux enchères. Mais ça, évidemment, Joan est loin, très loin de l'imaginer.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui, je vous raconte l'heure H de J.K. Rowling, l'auteur des aventures de Harry Potter, ce petit orphelin qui deviendra le plus célèbre sorcier du monde. Je vous raconte le parcours extraordinaire d'une jeune femme qui, malgré la précarité et les difficultés qu'elle a traversées, s'est accrochée à son rêve, celui de devenir écrivaine. Sans la moindre promesse de publication, Joan avait déjà imaginé et défini la trame d'une histoire en 7 tomes et créé un des mondes imaginaires les plus aboutis de la littérature, séduisant tant enfants qu'adultes. Retour donc sur un parcours aux multiples rebondissements. Nous sommes en 1993. 3 années se sont écoulées depuis ce voyage en train qui lui a inspiré le personnage de Harry. 3 années au cours desquelles la jeune femme n'a pas cessé d'imaginer et d'écrire les aventures de son jeune sorcier. Il y a un mois, Joan a acheté en seconde main une vieille machine à écrire. Elle a ainsi commencé à mettre toutes ses notes au propre, en beau caractère imprimé. Ce soir est un moment important, car elle vient de taper la dernière page de ce qui est devenu son premier manuscrit. Émue, elle saisit une dernière page blanche, l'insère dans la machine et tape « Harry Potter à l'école des sorciers » par Joan Rowling. Elle dépose la page au-dessus de la pile. Demain, elle mettra son manuscrit sous enveloppe et l'enverra à un agent littéraire, puis elle produira un deuxième manuscrit qu'elle enverra à un deuxième agent. Joan prévoit au total de taper 4 ou 5 manuscrits de Harry Potter à l'école des sorciers, en espérant qu'on les lui renverra s'ils sont refusés afin qu'elle puisse les soumettre à d'autres agents. Pour la première fois depuis longtemps, Joan se sent légère. Assise derrière son minuscule bureau de mauvaise qualité, une tasse de thé devant elle et la vieille machine à écrire sous ses yeux, elle se dit qu'elle est allée au bout de son premier roman, malgré tout ce qu'elle a traversé. Et il faut l'admettre, ces 3 dernières années ne lui ont apporté que des ennuis. À peine quelques mois après avoir commencé l'écriture des aventures de Harry, sa maman est décédée à l'âge de 45 ans. La sclérose en plaques l'a emporté, quelques jours seulement après Noël, et la vie de Joan a basculé. Comble de l'horreur, son appartement a été cambriolé peu de temps après, et tout ce qu'elle possédait de sa mère a été emporté. Cette perte terrible a également fait basculer la vie de Harry Potter. Joan racontera un jour au cours d'une interview. La mort de maman a eu une profonde influence sur mes livres parce que, alors que j'écrivais la série de Harry Potter, sur mon premier brouillon, la mort des parents de Harry était vraiment traitée de manière désinvolte. 6 mois après, ma mère mourait. Je pense qu'à partir de ce moment, la mort est devenue un thème central de la saga. Comment nous réagissons face à la mort? Combien nous la craignons? De bien des manières, tous mes personnages sont caractérisés par leur attitude face à la mort. La mort d'Anne Rowling a aussi beaucoup influencé la direction que prenait la vie de Joanne. Jusque-là, la jeune femme allait de petit boulot en petit boulot. La mort de sa mère l'a poussée à prendre un nouveau départ. Et Joanne se souvient encore du jour où elle est tombée sur une annonce pour cet emploi plein de promesses. Recherche, professeur de français à Porto, Portugal. Elle a postulé et sa candidature a été retenue. Ni une ni deux, elle a fait ses bagages, qui se résumaient à une minuscule valise dont la moitié contenait ses notes sur Harry Potter et les 3 premiers chapitres de son premier livre. Et elle s'est envolée. Les premiers mois ont été salvateurs. Installée dans un charmant appartement du centre de Porto, en colocation avec 2 Anglaises drôles et bienveillantes, Joanne a pu souffler. Pour un temps. Puis elle a fait la rencontre de George, un Portugais étudiant le journalisme. George était beau. Il était drôle. Joanne, séduite, n'a pas senti ou elle n'a pas voulu sentir. Des années plus tard, elle se demande encore qu'est-ce qui lui est passé par la tête pour qu'elle accepte d'épouser cet homme aussi vite. Elle le connaissait à peine. Joanne tourne la tête et contemple sa petite fille, Jessica, emmitouflée dans sa combinaison en pilou rose. Elle joue tranquillement à même le sol du salon avec un ourson tout rabougri. Heureusement que t'es arrivée, ma chérie, murmure Joanne à l'enfant qui lui fait un grand sourire. Malgré la naissance de leur fille, la suite de son mariage avec Georges n'a été qu'une succession de malheurs. Son mari est devenu agressif, jaloux, presque violent. Et un soir, la vie de Joanne a basculé pour la 2e fois. Georges s'est montré plus agressif que d'habitude. Il y a eu le mot de trop, le geste de trop, et puis la violence. Lâché comme un chien enragé à qui on retire la laisse. Quelques minutes plus tard, Joanne se retrouvait dans la rue, en pleurs, tambourinant à sa porte et priant son mari pour qu'il la laisse au moins récupérer son enfant. En vain. Par chance, Joanne s'était fait de nombreux amis à Porto. Le lendemain de cette scène terrible, ils ont pu convaincre un policier de l'accompagner à son domicile. Nouveau coup frappé à la porte, plus fermement cette fois. Georges a ouvert et Joanne, sous bonne escorte, a rapidement bouclé une valise avec des affaires pour Jessica et ses notes sur Harry Potter. Elle a pris sa petite fille dans ses bras et elles ont quitté leur appartement pour n'y plus jamais revenir. Une semaine plus tard, elle débarquait à Édimbourg où vit la sœur de Joanne. Elles ont d'abord occupé un appartement miteux et infesté de souris. Joanne se souvient avec amertume de ses premiers rendez-vous au bureau local de la Sécurité sociale pour demander une aide au logement et des allocations pour subvenir à leurs besoins. Combien de fois a-t-elle dû raconter devant des employés sceptiques pourquoi elle était seule à élever son enfant? Pourquoi elle avait dû quitter le père de Jessica et revenir au Royaume-Uni? Joanne dira plus tard « Vous devez expliquer à des tas d'étrangers comment vous êtes devenu pauvre et seul responsable d'une enfant. Je sais que ce n'était pas dans leur intention de m'humilier et de me donner l'impression que j'étais une moins que rien, mais c'est pourtant ce que j'ai ressenti. Et tout ça pour la modique somme de 69 livres par semaine, l'équivalent de 80 euros. Par la suite, Joanne a pu emprunter un peu d'argent à son ami de toujours, Sean Harris, et installer sa petite fille dans un appartement un peu plus décent, dans le quartier de Leith, le vieux port d'Édimbourg. Et les voilà aujourd'hui. Leur situation est encore très précaire. Les meubles leur ont été donnés par des amis. Ils sont certainement plus fonctionnels que décoratifs, mais au moins, il n'y a pas de souris. Joanne prend des douches glacées pour ne pas utiliser l'eau chaude. Elle ne garde ce privilège que pour Jessica. Et c'est tout juste si elle mange à sa faim. Car là encore, elle privilégie la santé de sa fille. Son médecin lui a diagnostiqué une sérieuse dépression. Mais la jeune mère tient bon. Pour ses 2 enfants, Jessica et Harry. Pour eux, elle a décidé de se battre. Elle prévoit de trouver un emploi, mais Il lui faut d'abord finir son premier livre et lui donner une chance de voir le jour. Alors plus que jamais, elle écrit. Dès que Jessica s'endort, elle la met délicatement dans une poussette et part se réfugier dans un café de la capitale écossaise. Au moins, là, elle ne consomme pas de chauffage. Le plus souvent, elle se rend au Nicholson, un café tenu par son beau-frère. Parfois, elle s'assied à une table du Blue Elephant qui offre une vue imprenable sur le château d'Édimbourg. La nuit, quand Jessica dort, Joanne se remet au travail et écrit encore et encore. « Je suis une Gryffondor », confiera-t-elle un jour à un journaliste. Les élèves de l'école de magie Poudlard sont répartis en quatre grandes maisons, selon leur personnalité. Il y a les Serpentards, qui sont rusés et déterminés. Les Poufsouffles sont loyaux et constants. Les Serdaigle représentent la sagesse et l'érudition. Enfin, il y a la maison Gryffondor, à laquelle appartiennent Harry, Hermione et Ron, et qui rassemble ceux qui sont courageux et persévérants. Deux qualités que possède aussi Joanne et qui lui permettront un jour de devenir une des plus célèbres auteurs du monde. Au moment où elle dépose l'enveloppe dans son premier manuscrit sur l'horrible tablette qui orne son hall d'entrée, Joanne a peu d'espoir. Demain, elle glissera l'épaisse enveloppe dans une boîte postale. Quelques heures plus tard, une camionnette des postes viendra la récupérer pour l'emmener dans un centre de tri d'Édimbourg. Elle repartira le lendemain pour un autre centre de tri, à Londres cette fois. Et de là, une autre camionnette la prendra en charge et elle sera déposée dans l'immense boîte aux lettres d'un agent littéraire londonien. Une assistante ouvrira machinalement l'enveloppe. Elle trouvera le titre amusant, mais conclura sans même lire la deuxième page qu'il s'agit là d'un livre pour enfants. Elle prendra alors une nouvelle enveloppe vierge dans son tiroir et y glissera le manuscrit accompagné d'une courte note qui dira, en résumé, « Merci, mais malheureusement, nous ne représentons pas les livres d'enfants. » Retour au destinataire. Le même sort sera réservé à plusieurs des manuscrits de Joanne. Les semaines ont passé. La jeune femme n'a reçu que des réponses négatives dans sa recherche d'agent, comme elle s'en doutait. Résignée, elle a décidé de reprendre sa vie en main et de remettre Harry entre celles du destin. Elle vient de trouver un poste d'enseignante à l'Académie de Leith. Elle est loin, très loin, d'imaginer que pendant ce temps, un de ses manuscrits est arrivé chez un autre agent littéraire londonien et qu'il a franchi le barrage du premier bureau de tri des manuscrits. Harry Potter, à l'École des sorciers, se trouve à présent sur le bureau de Christopher Little, le directeur. Une note est épinglée sur la première page. Cette fois, la note ne dit pas « Désolé, nous ne prenons pas en charge les livres d'enfants », non. La note, signée par Brioni, l'assistante de Little, est menaçante. C'est plus qu'un livre pour enfants. Lisez-le ou je démissionne. Quelques jours plus tard, Joanne reçoit une lettre de Christopher Little. Nous souhaiterions vous rencontrer. Nous sommes en février 1995. Joanne est abasourdi. La chance a enfin décidé de frapper à la porte de son minuscule appartement et sa vie va en être bouleversée. « Madame Rowling, j'accepte de vous représenter », lui annonce quelques jours plus tard l'élégant agent aux cheveux gris. Le fait que M. Little ait accepté de représenter Joanne est pour le moins surprenant. Après tout, il n'est pas spécialisé dans les livres pour enfants, mais il y a quelque chose chez Harry Potter qui l'a véritablement touché. Bon, bien sûr, il est séduit par l'univers du livre, ce monde parallèle fait de magie, qui possède ses propres codes, ses propres lois, ses stars, ses champions de Quidditch, le sport des sorciers qui se joue sur des balais. Mais il y a autre chose. Comme tant d'autres lecteurs le confieront à Johan, Christopher Little, son agent donc, s'est irrémédiablement attaché au personnage du livre. Chaque personnage est extrêmement humain et doté d'une personnalité, d'émotions et d'une complexité qui lui sont propres. Les personnages et leurs réactions sonnent justes et leur évolution au fil des épreuves est mûrement réfléchie. C'est ce qui explique pourquoi les histoires de Harry Potter plaisent tant aux adultes qu'aux enfants. Mais c'est seulement quand il apprendra à mieux connaître sa jeune cliente que Christopher découvrira ce qu'il y a de plus extraordinaire chez Johan. Sans avoir même publié son premier livre de Harry Potter, ni même avoir osé en rêver, elle a déjà imaginé les 6 tomes suivants. Un tome pour chaque année de Harry passé à l'école des sorciers. Et sa précieuse boîte à chaussures contient également, et ça, c'est tout aussi extraordinaire, les biographies de chaque personnage, principal ou secondaire, permettant à Johan de s'y référer au fur et à mesure qu'elle revient sur l'un ou l'autre événement dans l'histoire. Tout cela achève de conforter M. Little dans sa décision de représenter Johan. Mais il vous faudrait changer de nom ou remplacer votre prénom par des initiales, conseille-t-il. Les petits garçons n'aiment pas les livres écrits par des femmes, je suis désolé. Johan est un peu surprise, mais trop heureuse d'avoir trouvé un agent à Harry, elle s'incline. Plus tard, assise devant la table de sa cuisine, elle profite de la sieste de Jessica pour se pencher sur la question, pas si évidente, car elle n'a pas de deuxième prénom. Elle réfléchit. J. Rowling, J.O. Rowling, non, ça ne sonne pas bien. Johan lève alors les yeux vers le mur devant elle et contemple les photos de sa famille qui y sont accrochées dans de petits cadres en bois. Comme dans son livre. Elle imagine que les photos s'animent. Sa mère lui sourit. Sa sœur et son mari courent dans la forêt et ses meilleurs amis lui font signe de les rejoindre. Puis, elle voit sa grand-mère, Kathleen, dont elle était si proche. Elle se balance doucement dans un fauteuil à bascule. Johan avait 9 ans quand elle est décédée. Une étincelle s'allume dans les yeux de la jeune auteure. Elle vient de trouver son nom de plume et par là même de rendre le plus bel hommage qui soit à sa grand-mère paternelle. Elle s'exclame « Johan Kathleen Rowling, mon nom d'auteur sera J.K. Rowling ». À présent, la chasse aux maisons d'édition peut commencer. Pendant des semaines, Christopher va consacrer toute son énergie à trouver un éditeur pour Harry. Il envoie le manuscrit à une douzaine de maisons d'édition. En parallèle, il n'a de cesse de prévenir Johan. Espérez pas grand-chose, mademoiselle Rowling. Même si je trouve une maison d'édition, sachez que les livres d'enfants, eh bien, ça ne rapporte pas.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui, je vous raconte l'heure H de J.K. Rowling, l'auteur des aventures de Harry Potter, ce petit orphelin qui deviendra le plus célèbre sorcier du monde. Je vous raconte le parcours extraordinaire d'une jeune femme qui, malgré la précarité et les difficultés qu'elle a traversées, s'est accrochée à son rêve, celui de devenir écrivain. Sans la moindre promesse de publication, Johan avait déjà imaginé et défini la trame d'une histoire en 7 tomes et créé un des mondes imaginaires les plus aboutis de la littérature, séduisant tant enfants qu'adultes. Retour donc sur un parcours aux multiples rebondissements. Johan Rowling est devenue J.K. Rowling. Depuis quelques jours, elle vit entre sa maison cossue des beaux quartiers d'Édimbourg et une des suites de l'hôtel Balmoral. Il est loin le temps des cafés, celui où elle emmenait Jessica faire sa sieste afin d'écrire au chaud devant un bon expresso. Un expresso qu'elle faisait durer des heures pour ne pas dépenser trop d'argent. En plus de leur délicieux café, le Balmoral lui offre aujourd'hui la tranquillité dont elle a besoin pour pouvoir terminer son dernier livre, le 7e tome des aventures de Harry Potter. Nous sommes en janvier 2007. 12 longues années se sont écoulées depuis que J.K. a terminé son premier livre, Harry Potter, à l'école des sorciers, et que Christopher Little est devenu son agent. Aujourd'hui, J.K. est une femme riche, très riche même. On vient de la classer femme la plus riche d'Angleterre, devant la reine, et auteur le plus riche du monde. J.K. n'est plus assaillie par l'angoisse et la dépression qui lui ont jadis inspiré les détraqueurs, ces fantômes vêtus de noir qui aspirent l'âme et toutes les pensées positives de ceux qu'ils approchent. C'est plutôt par les paparazzi que J.K. est assaillie. Devenue première citoyenne d'Édimbourg et mondialement célèbre, elle doit à présent s'isoler pour pouvoir écrire au calme. Très émue, J.K. dépose sur la dernière page de son dernier tome des aventures de Harry, l'ultime point final. Elle pose son stylo. Malgré les machines à écrire et la démocratisation des ordinateurs, elle continue d'écrire au stylo. Elle espère que ce dernier tome plaira à son agent, à ses éditeurs, mais surtout à ses fans. Depuis qu'Harry Potter est devenu un héros du grand écran, son écriture est devenue plus imagée. Elle multiplie les détails car elle sait que le livre fera l'objet d'un film. J.K. rassemble ses notes. Elle les retranscrira en version électronique afin de les envoyer à son agent. La suite du processus est digne d'un secret d'État car les enjeux commerciaux et marketing sont de taille. Impossible de laisser fuiter la moindre information sur le héros préféré de tous les enfants du monde. Même les services secrets britanniques sont de mèche. L'éditeur de J.K. a déjà été contacté il y a 2 ans par les services de renseignement électronique. Une copie du manuscrit de Harry Potter et le prince de sang mêlé avait été mise en ligne avant même sa parution. Fausse alerte, heureusement. Il ne s'agissait pas du texte original. On raconte que le porte-parole des renseignements électroniques avait répondu aux sollicitations des journalistes en déclarant avec humour « Nous ne communiquons pas sur notre défense contre les forces du mal ». Les fans de Harry Potter comprendront le clin d'œil. J.K. se lève de sa chaise et rejoint la chambre luxueuse et cosy de sa suite. Sur le mur en face du lit, il y a un immense miroir. Elle y voit son reflet. Une belle femme blonde de 42 ans, habillée avec élégance. Puis elle regarde autour d'elle dans le miroir, comme l'avait fait jadis Harry, dans le célèbre miroir du Rized. L'orphelin y avait vu son père et sa mère derrière lui, chacun ayant une main sur son épaule. Le directeur de Poudlard lui avait alors expliqué que le miroir du Rized révélait à celui qui s'y contemplait son plus grand désir. Rized étant d'ailleurs le mot inversé de désir. J.K. sait ce qu'elle aimerait voir dans ce miroir. Sa maman la prenant dans ses bras. Les larmes coulent sur son visage, car son plus grand regret et de n'avoir jamais parlé de Harry Potter à sa mère. Elle serait si fière d'elle aujourd'hui. Quel chemin parcouru depuis que Christopher Little a accepté de devenir son agent. Elle lui doit énormément car sans lui, Harry n'aurait sans doute pas vu le jour. J.K. est si timide. Et puis, elle écrivait surtout pour elle. Mais son agent s'est battu pour son héros. Il a essuyé les refus de pas moins de 12 éditeurs. Aujourd'hui, on dira que pas moins de 12 éditeurs n'ont pas su saisir leur chance de publier Harry Potter. Bref, ce sont finalement les éditions Bloomsbury qui ont pris le pari. Mais elles ont bien fait. En 1997, 7 ans après le voyage en train entre Manchester et Londres, Harry Potter à l'école des sorciers a enfin été publié. Le petit sorcier, avec sa cicatrice sur le front et ses lunettes rondes, devant un train rouge portant le nom de Poudlard Express, est incontestablement devenue une des couvertures de livres les plus célèbres au monde. La suite est une escalade vertigineuse vers le succès. Le bouche à oreille a produit son effet et les petits Anglais se sont vite arrachés le livre. Quand le 2e tome est paru, à la surprise générale, c'est ce livre pour enfants qui est arrivé en tête des ventes au Royaume-Uni en moins de 6 semaines. Aux États-Unis, les droits d'auteur ont été rachetés par les éditions Scholastic Books à un prix record pour un livre d'enfant. Le tome 3, Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, est paru en 1999, faisant définitivement de J.K. une superstar mondiale. Elle se souviendra d'ailleurs toute sa vie de cette signature de livre à Boston, en apercevant une file immense qui s'étendait sur deux pâtés de maison. La jeune auteure a cru que des soldes avaient lieu près de la librairie où elle avait rendez-vous. Mais c'est pour vous, Johan, ont répondu amusés les éditeurs de Scholastic. Cet engouement sans précédent pour un livre d'enfant n'a pas non plus échappé à Hollywood. Dans le milieu, il se chuchotait déjà que Spielberg allait réaliser toute la saga. Mais J.K. avait des idées très précises sur ce à quoi devaient ressembler les films. Et elle avait bien l'intention d'être impliquée dans la réalisation. Harry est anglais. L'histoire se déroule dans une école en Écosse. Il est hors de question que je laisse qui que ce soit dénaturer mon héros, déclare-t-elle. Finalement, c'est la Warner Bros. Et Chris Columbus, le célèbre réalisateur des Goonies et des Gremlins, qui parvint à convaincre J.K. Et tout comme Christopher Little, les éditions Bloomsbury ou Scholastic Books, ils ont parié sur le bon cheval. Car à ce jour, les films de Harry Potter ont battu des records d'audience au box-office. Aujourd'hui, le dernier film de la saga se classe encore en 15e position devant Star Wars épisode 8 et La Reine des Neiges. J.K. est interrompu dans ses pensées par des coups frappés à la porte. C'est le directeur du Balmoral en personne qui vient lui demander de signer le petit buste en marbre du dieu Hermès qui trône sur une console de sa suite. Il lui a confié qu'on prévoyait de renommer sa suite J.K. Rowling, et qu'une petite chouette en bronze ornerait désormais la porte d'entrée. Hommage ou but commercial, la finalité est la même, et J.K. le sait très bien. Harry Potter est devenu synonyme de dollars. La semaine dernière, on lui a présenté des projets de parcs d'attractions. Les tours opérateurs parlent de parcours reprenant tous les lieux où elle a écrit, et même ceux où ont été tournés les films. Et dans tous les grands magasins du monde, on pourra bientôt acheter des bonbons, des vêtements, des déguisements ou des jouets Harry Potter. Ce qu'elle craignait est en train de se produire. Harry lui échappe. Une chose pourtant ne pourra jamais la séparer de son petit héros. C'est l'amour mutuel qu'elle et les enfants lui portent. Aujourd'hui encore, toutes les 30 secondes, un enfant ou un adulte ouvre avec excitation un livre de Harry Potter. Alors, certains diront que Johan a saturé le marché des livres pour enfants, laissant peu de place aux autres écrivains. Et il est vrai que les chiffres ont de quoi donner le tournis. En 2018, les ventes des 7 livres sur Harry Potter ont dépassé les 500 millions d'exemplaires et ils sont aujourd'hui traduits dans plus de 80 langues. D'autres s'accorderont pour dire qu'elle a redonné toute une dimension aux livres d'enfants, encourageant ainsi les écrivains du monde entier à se lancer sur cette voie. Une chose est sûre, elle a donné le goût de la lecture à des millions d'enfants et elle a su toucher cette petite part d'enfance qui sommeille en chaque adulte. Voilà pour ce récit magique que j'ai eu le plaisir de vous partager grâce à la plume d'Adeline Drouin.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.